Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Pobodi Oulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Insécurité dans la région de l'Est. Un pont a été dynamité par les groupes radicaux samedi dernier. Selon des témoins, c'est aux environs de 19h qu'une colonne d'hommes armés a fait une incursion dans le village de Bempouaga, situé à 5 km de Diapaga. Au Mali, les éléments de la force Barkhane ont 3 jours à compter de ce dimanche 14 août pour quitter définitivement le pays. L'ultimatum a été lancé par les forces vives de la ville de Gao dans une déclaration reprise par plusieurs médias locaux. Et puis l'invité de ce journal est l'abbé Kizito Nikiema, chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Avec lui, il sera question de la solennité de l'Assomption et de la place de la Vierge Marie dans le catholicisme. Bonsoir à tous et bienvenue. Des individus armés en nombre impressionnant ont dynamité le pont situé sur l'axe Diapaga-Patiarga dans la nuit du 13 au 14 août 2022. Les détails avec Valérie Guéret.
Des témoins indiquent que c'est aux environs de 19h le 13 août que la colonne d'hommes armés a fait incursion dans le village de Pambouaga à seulement 5 km de Diapaga. Après avoir mis le pont hors usage à l'aide d'explosifs, ils ont procéder à des tirs d'armes lourdes pour apeurer les populations avant de mettre le feu sur 3 des engins de travaux publics appartenant à l'entreprise qui avait en charge la refection de la route Diapaga-Partiaga. Prise de panique, la population de Partiaga et des villages environnants ont décidé de plier bagages pour rejoindre Diapaga.
Valérie Guéret, dans la région du Centre-Nord, plus de 40 corps sans vie ont été retrouvés le long de la route de Tafogo-Bouroum, entassés par l'eau des 10 ou de 5. Les personnes tuées avaient toutes les mains ligotées et les yeux bandés, a écrit le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés dans un communiqué en date du 11 août 2022. Le CISC, qui s'appuyait sur des témoignages pour rédiger son communiqué, pointe un doigt accusateur sur les forces de défense et de sécurité. Le CISC, qui dit encourager également les forces républicaines dans la lutte contre le terrorisme, invite donc le président du FASO à recadrer l'action de certains éléments de l'armée qui résument la lutte anti-terrorisme à une simple extermination de villages occupés par une communauté précise. Après le Centre-Nord, rendons-nous au Sahel. C'est l'une des régions les plus touchées par l'insécurité. Et c'est là que l'unité spéciale des grands reportages d'Omega Media vous emmène pour une plongée dans la localité d'une zone sous pression constante des groupes armés terroristes. C'est un gars d'Ori quand la terre étouffe le Sahel. C'est un grand reportage de Gilles Dasda et dont je vous propose un extrait.
Destination, Seitenga, située dans la zone des trois frontières. Zone marquée par une menace sécuritaire persistante. Et Seitenga, justement, la voici. Pour accéder à la ville, obligation de montrer patte blanche. Ici, débute la partie de Seitenga qui a connu de sombres heures le 11 juin passé. Des rescapés vont vivre des instants de pure terreur. Parmi eux, ce vieux que nous appelons Bouba. 80 ans presque. Ce jour-là, ils sont assis en groupe devant un domicile lorsque soudain, effarés, ils aperçoivent comme surgis du néant des individus armés qui viennent vers eux. Le groupe d'hommes va vivre alors une scène qui surpasse les cauchemars les plus effroyables possibles.
Quand les terroristes sont arrivés, nous les avons aperçus. Nous étions 9 à fuir pour se réfugier dans une maison. Certains d'entre nous étaient restés devant la porte. Ils ont été tués sur le champ.
Les assaillants rentrent ensuite dans la maison où le groupe d'hommes est réfugié.
C'est un gars d'Ori quand la terre étouffe le Sahel, un grand reportage de Gilles Dasda que vous pouvez suivre sur la page Facebook de Radio Oméga. Et justement, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président du Faso avait annoncé la création des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. En croit le ministre en charge de la réconciliation nationale, un centre d'accueil de radicalisation et de réinsertion a été opérationnalisé, ce qui a permis de démobiliser plusieurs dizaines de combattants terroristes. Iroboli s'est exprimé au cours d'une conférence de presse vendredi dernier. Nous l'écoutons au micro de Momoni Tamboura.
La question suivante a estimé que le nombre de comités est faible par rapport à l'envergure des provinces ou des localités dans le pays. Nous sommes à une dizaine de comités. Nous allons doucement. Il ne s'agit pas aussi de forcer à créer des comités là où les conditions ne sont pas remplies. Il faut d'abord s'assurer que les conditions de dialogue sont remplies, que les notabilités capables de mener ce dialogue existent dans la localité et il faut les recenser pour ne pas se tromper. Parce que si vous impliquez des gens qui ne sont pas aptes à être acceptés par toutes les parties, vos chances de succès sont faibles. Et dans cette démarche, nous essayons de mettre toutes les chances de notre côté en cherchant les personnes ressources les plus indiquées et celles qui pourraient créer le maximum de consensus en vue de nous permettre d'engranger des succès.
À l'instant, le ministre burkinabé de la Réconciliation nationale, Iroboli, il s'exprimait donc le vendredi dernier au cours d'une conférence de presse. La vague de nominations intervenue les 13 juillet et 3 août dernier au ministère de la Sécurité et qui a vu plus de 300 préfets relevés de leurs fonctions est restée en travers des gorges des concernés. Depuis plusieurs jours, ça grogne en sourdine dans les rangs des préfets relevés, donc de leurs fonctions. Les détails avec Chalda.
Ces derniers s'interrogent sur les raisons d'une telle décision, même s'ils reconnaissent qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du ministre de l'administration territoriale. À quoi bon remplacer presque tous les préfets quand on sait que la plupart d'entre eux étaient des administrateurs et qui remplissaient déjà correctement leur mission à la tête des départements, s'interroge-t-on dans les milieux des administrateurs civils et des secrétaires administratifs. On se demande aussi quel temps prendront les nouveaux promus pour s'imprégner du fonctionnement des départements, surtout dans un contexte où ils auront aussi la responsabilité de présider les délégations spéciales. Selon nos informations, certains préfets nouvellement nommés l'ont été sans leur consentement. D'autres nommés dans les zones à fort défi sécuritaire se résignent à rejoindre leur poste où ils devraient remplacer d'autres préfets qui auraient été résilients pendant quelques années. Si la grogne est principale parlement dirigé contre les autorités de la transition, elle ne dédouane pas pour autant le syndicat national des administrateurs civils et des secrétaires administratifs. En effet, le SINACSAB, dont certains leaders ont été promus dans cette vague de nomination, est accusé à tort ou à raison de complicité et de connivence avec les autorités de la transition. De son côté, le SINACSAB se défend d'avoir été associé à ce vaste mouvement des préfets.
Merci à vous, Echalda, pour tous ces détails. Faisons un tour à présent à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques de Ouaga. Cet institut situé au quartier 1200 logements exerce dans 4 domaines de compétences, à savoir l'énergie, la mécanisation, les substances naturelles et la technologie alimentaire. Il compte à peu près 150 personnes, dont les 2/3 sont des chercheurs. Les détails avec Marina Traoré.
En 25 ans d'existence, l'IRSAT a mis au point une vaste gamme de technologies. Dr Emmanuel Nanima, directeur général de l'IRSAT.
Nous pouvons citer entre autres le bitatoré, il y a également les foyers améliorés, il y a une multitude de produits alimentaires, des jus de fruits que nous avons pu mettre au point. Il y a également beaucoup d'outils, c'est-à-dire des semoirs, des batteuses, des baratteuses.
L'une des technologies la plus connue en milieu rural, c'est le foyer amélioré, créé il y a une vingtaine d'années. Le foyer amélioré permet notamment d'économiser sur la principale source d'énergie, notamment le bois et ses dérivés. À la suite du foyer amélioré, l'IRSAT a développé l'autocuiseur, encore appelé bitatoré en langue nationale moré. Cette technologie permet de conserver ses repas plusieurs heures au chaud. L'IRSAT mène aussi des recherches dans le domaine de la santé. Dr Emmanuel Nanima.
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, nous avons obtenu un soutien financier du ministère qui nous a permis de mettre au point, de façon locale, un respirateur et des lave-mains. À côté de tout ça, pour les maladies contre la peau,
Nous avons mis au point également des savons à base d'huile essentielle.
Selon Dr Nanima, toutes ces recherches ont pour vocation de contribuer au développement du pays. Toutefois, ils font face à un certain nombre de difficultés.
Nous avons un problème, en fait, de locaux. Vous verrez que l'IRSAD, c'est le seul institut du CNRSC qui ne dispose pas jusqu'à présent d'un siège. Cela va sans dire que le problème des bureaux se pose. Également, quelques ressources financières pour le fonctionnement. Vous savez que les bailleurs de fonds, d'une manière générale, financent les activités de recherche, mais pour le fonctionnement, la plupart des bailleurs de fonds ne regardent pas le fonctionnement. Pour l'année 2022, nous avons un budget de 58 900 000 pour le fonctionnement et rien que les factures d'électricité nous coûtent à peu près 45 millions.
Afin de rapprocher au mieux les programmes de recherche des besoins des utilisateurs, l'IRSAD s'est engagé dans un processus de décentralisation de ses activités. Ainsi, une direction régionale est basée à Bobo-Dioulasso. Tous les départements scientifiques y sont représentés.
Au Mali, les éléments de la force Barkhane ont 3 jours à compter de ce dimanche 14 août pour quitter définitivement le pays. L'ultimatum a été lancé par les forces vives de la ville de Gao dans une déclaration reprise par plusieurs médias locaux. Les signataires de la déclaration dénoncent le retard pris et la mauvaise foi des forces françaises de Barkhane à continuer d'occuper la base militaire de l'aéroport de Gao. Ils accusent également Barkhane d'entretenir et d'appuyer les forces terroristes, notamment dans les zones de Menaka, d'Asongo et de Gao. À l'expiration de ce délai de 72 heures donné pour le départ définitif de Barkhane, nous interdirons la circulation de toute force étrangère dans la ville de Gao et sur les axes routiers Gao-Asongo, Gao-Bourem, Gao-Wabaria sans préjudice de toute autre action nécessaire jusqu'à l'atteinte de notre objectif en prévenant les forces vives de la ville de Gao. Au moins 41 personnes ont été tuées dans un incendie qui s'est déclaré hier dimanche dans une église du Caire, selon les autorités ecclésiastiques coptes. Le ministère de la Santé égyptien a lui indiqué avoir recensé 55 victimes. Cet incident, survenu à l'église Abou Sifine au quartier populaire d'Imbaba, aurait été causé par un climatiseur défaillant. Selon les explications données par le ministère de l'Intérieur, le climatiseur d'une salle de classe au deuxième étage du bâtiment où se trouve l'église est tombé en panne et a dégagé une grande quantité de fumée qui a été la cause principale des blessures et des décès. L'incendie a été maîtrisé selon les autorités. J'ai mobilisé l'ensemble des services de l'État pour que toutes les mesures soient prises, a aussitôt réagi le président Abdel Fattah al-Sissi sur son compte Facebook. Le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête. Parlons à présent sport avec Yaya Diomandé et Ibrahim Baili.
Omega Sport.
Ce sont les vacances. Plus de 300 enfants ont choisi de les passer en apprenant ou en améliorant leur aptitude au basketball. Ce à travers le camp Vacances Basket 2022 qui a refermé ses portes samedi 13 juillet au Palais des Sports de Ouagadougou. On prit part à ce camp des vacanciers âgés de 3 à 19 ans. Lucia Zongo et Yaya Diomandé pour les détails.
Face à leurs parents et sous la houlette de leurs encadreurs, ces jeunes vacanciers demandent de la maîtrise des techniques apprises tout au long du mois qu'a duré l'édition 2022 du camp Vacances Basket. Ce temps d'immersion a suscité une vocation pour la campeuse Doriane Yamwego. Ce cadre d'apprentissage sportif est aussi éducatif, foi de son président d'honneur, le ministre des Sports Wabou Drabo. Selon lui, la relève du basketball burkinabé est assurée grâce à ce type d'initiative.
Donc ces enfants aujourd'hui seront, disons, les sportifs professionnels de demain. Et c'est à travers un travail acharné, un travail engagé avec l'accompagnement du gouvernement que nous allons parvenir à hisser et le basket burkinabé sur le plan international.
Ça fait déjà plus de 20 ans que le promoteur tient l'engagement de former des étoiles du basketball burkinabé, une tâche qui implique des charges conséquentes. Mahamadi Zongrana est le promoteur de Camp Vacances Basket.
Depuis 24 ans, nous avons commencé déjà à impliquer ce que c'est que le basket aux enfants. Certains enfants jouent aux États-Unis, jouent au Canada, jouent en Europe, qui jouent dans les championnats nationaux. Les enfants veulent. Maintenant, souvent, les moyens manquent. J'espère que les 25 ans qui arrivent, nous allons vraiment, vraiment, peut-être avoir quelques sponsors ajoutés.
Placé sous le thème sport et médias, quelles opportunités et risques du numérique pour la jeunesse, cette édition de Camp Vacances Basket s'est déroulée sur 5 centres sportifs de la ville de Ouagadougou. En plus du basket, ce camp a inculqué les enjeux du numérique à ses participants.
Merci à Yaya Diomandé qui assure la retransmission web de ce journal-là. Le championnat national de hockey sur gazon s'est disputé sur samedi 13 août dans la salle des Amatio du Senos Bay à Ouagadougou. En dame, le hockey club de Gungin a eu raison de l'espoir hockey club du Boulkiem D. Chez les hommes, c'est Galaxy Hockey Club de Ouaga qui est sacré champion national au détriment de l'Union Hockey Club de Koudougou. Le résumé de ces finales avec Ibrahim Bailly.
C'est par les dames que les finales débutent. Au terme de 40 minutes de jeu, les deux équipes étaient à 0 but partout. Et c'est au tir au but que Gungin s'impose par 1-0. Chez les hommes, l'on n'a pas eu recours à l'épreuve fatidique des tirs au but. Au terme d'une partie âprement disputée, Galaxy qui menait par 2-0 va finalement s'imposer par 2-1. Les garçons sont bien rentrés dans le match. Une satisfaction pour Ileo Drago, l'entraîneur de Galaxy.
Voilà, nous sommes très contents. Les enfants ont suivi les consignes et nous allons remercier particulièrement ceux qui ont travaillé en amont. Je pense que dans les années à venir, le hockey au Burkina aura une grande considération. Il aura sa place.
Koudougou perd coup sur coup deux finales. Des défaites au goût amer. Visiblement, l'entraîneur Moïse Kouala accuse.
Bon, qu'est-ce qui n'a véritablement marché? Je vais dire que tout a marché. Tout a marché dans la mesure où, dans un commun accord, c'est le développement du sport de hockey que nous voulions. La salle était remplie. J'étais content. Et je pense que ce qui a marché, c'est le spectacle qu'on a produit. Et l'équipe qui a gagné, c'est la loi naturelle qui demande ça.
Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, malgré son calendrier chargé, a tenu à assister à ces finales. Un jeu et un engagement des différents acteurs qui l'ont émerveillé. Wahabou Drabo.
Comme je le disais tantôt, une raison de plus pour nous d'être présents, de constater l'engagement, donc disons l'amour des sympathisants et les athlètes qui pratiquent ce sport. Nous l'avons vu. Nous avons vu l'engagement et nous avons vu comment les promoteurs sont engagés également.
Le hockey sur gazon fait son petit bonhomme de chemin. Après les finales régionales, les équipes sont venues de Koudougou, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Djibo pour ces finales nationales. Une grosse satisfaction pour le président de la Fédération Burkinabé de hockey sur gazon, Idrissa Kabore.
Je suis vraiment satisfait de l'ensemble de la compétition dans la mesure où chaque année, il y a pratiquement un nouveau champion. Ça veut dire que la prise de conscience est réelle au niveau des clubs, au niveau des acteurs, et chacun se bat, et c'est ça aussi l'essence de la compétition. On cherche à être toujours le meilleur. Mais je voudrais féliciter surtout les équipes aussi qui sont venues d'ailleurs, et vraiment ça nous fait vraiment plaisir de constater que le hockey est en train de faire vraiment son petit bonhomme de chemin.
Les équipes sont reparties satisfaites non seulement d'avoir appris quelque chose, mais aussi avec des récompenses. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous est pris pour le championnat de l'année prochaine.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Ce lundi 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, la mère de Jésus. Le thème retenu par l'église Famille de Dieu du Burkina Faso pour la célébration de cette solennité qu'est l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de Yagma est avec Jésus et Marie, prions pour la paix dans nos familles et dans notre pays. À la faveur donc de cette fête, nous recevons l'abbé Kizito Nikema, chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Au micro de Judith Traoré, notre invité nous parle de la solennité de l'Assomption et surtout de la place de la Vierge Marie dans le catholicisme. Suivez.
L'abbé Kizito Nikema, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Aujourd'hui 15 août, les fidèles catholiques du monde entier célèbrent la solennité de l'Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption?
L'Assomption, c'est la fête de Marie qui monte au ciel avec son corps et son âme. La fête de l'Assomption a ses origines dans la foi catholique, dans la tradition catholique. En fait, quand Jésus est venu, il est passé de ville en village pour annoncer la bonne nouvelle. Et il est monté au ciel sans laisser aucun écrit. C'est plus tard que des gens se sont mis à écrire la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, avant qu'il y ait le Nouveau Testament, avant qu'il y ait des écrits sur la vie de Jésus, son enseignement, les chrétiens vivaient de façon chrétienne en suivant la foi catholique. Donc, les premiers chrétiens vénéraient la Vierge Marie, ils croyaient à son Immaculée Conception, à sa montée au ciel, et cela est valable. Et c'est pour cela que le pape a défini le dogme de l'Assomption. Marie monte au ciel avec son corps et son âme. Si on ne trouve pas de traces dans la Bible, très clairement, ce n'est pas grave. C'est quelque chose qui a été vécu dès les origines, et les premiers chrétiens, les premiers saints en attestent, et c'est pour cela que nous fêtons aujourd'hui et nous sommes sûrs de ne pas nous tromper.
Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que la solennité de l'Assomption est fêtée le 15 août?
La date a été choisie par le pape. C'est une date choisie par le pape pour commémorer la montée de Marie au ciel.
L'abbé Kizito Nikiema, est-ce que les Saintes Écritures parlent de la mort de Marie?
La Bible ne parle pas explicitement de la mort de Marie. On a seulement dans l'Apocalypse, chapitre 12, on dit un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil qui montre que Marie est au ciel.
L'Apocalypse selon Saint Jean relate un accouchement. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce texte biblique? Du reste, c'est la première lecture de ce 15 août.
Oui, dans l'Apocalypse, nous voyons Saint Jean qui a des visions, qui voit ce qui se passe au ciel et il voit la Vierge Marie dans des apparats de reine. Elle est revêtue du soleil, elle a la lune sous les pieds, elle a une couronne de 12 étoiles. Ça montre vraiment que Marie est au ciel et elle est reine au ciel. Nous lisons ce texte-là le jour de l'Assomption parce que nous croyons qu'elle est montée au ciel avec son corps et son âme pour être la reine du ciel.
Tu es bénie en toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. S'est exclamée Élisabeth à qui Marie a rendu visite. Pourquoi dit-on donc que Marie est bénie entre toutes les femmes?
Marie est pleine de grâce. Ça, c'est l'archange Gabriel envoyé de la part de Dieu qui parle à Marie, qui révèle à Marie et qui nous révèle qu'elle est pleine de grâce. Cette expression-là est pleine de sens. Elle est pleine de grâce. Elle est la mère de Dieu parce que son fils est Dieu et Jésus Christ est Dieu, elle est Immaculée Conception, tout cela, ça fait partie des grâces que Marie a reçues. Et quand Marie rend visite à Élisabeth, elle est remplie de l'Esprit Saint et elle répète la même chose, tu es bénie entre toutes les femmes. Donc Marie, c'est une femme hors pair, une femme choisie par Dieu, une femme élue par Dieu, et elle a ce privilège de monter au ciel avec son corps et son âme et d'être la reine du ciel.
Les Saintes Écritures disent aussi que Marie est la mère de Dieu, Marie est la mère de l'Église. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu?
Oui, Mère de Dieu, c'est Élisabeth qui le dit quand elle dit « Tu es bénie entre toutes les femmes. Qui suis-je pour que la Mère du Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Donc, la Bible appelle Marie la Mère du Seigneur et Jésus, c'est notre Seigneur et notre Dieu. Ça, c'est l'apôtre Thomas qui le confesse quand Jésus ressuscite. Donc, Mère du Seigneur, Mère de Dieu, c'est la même chose. Et donc, Marie est la Mère de Dieu. Oui, elle est la Mère de l'Église. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres. Lorsque les apôtres attendent de l'Esprit Saint, il se trouvait en prière avec Marie et c'est dans ce moment de prière que l'Esprit Saint est descendu. Donc elle est la mère des apôtres. D'ailleurs, Jésus a dit à Jean, voici ta mère. Et dans l'Apocalypse aussi, on dit que Marie est la mère de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est l'Apocalypse chapitre 12. Donc Marie est la mère de tous les chrétiens. Elle est la mère de Dieu, la mère de Jésus et elle est également la mère de l'Église.
L'abbé Kizito Nikiema, merci.
Merci.
À l'instant, l'invité de la rédaction, l'abbé Kizito Nikiema, chapelon au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Avec lui, il a été question tout à l'heure de la solennité de l'Assomption et de la place de la Vierge Marie dans le catholicisme. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré et retransmis sur la page Facebook par Yaya Diomandé. Merci à vous de l'avoir suivi. Et dans un instant, Alain vous retrouve pour l'édition Amoré.
Et tout de suite.